L'histoire commence en mars 1983.
L'émergence de l'écologie, l'ampleur du mouvement, sonne le glas de mon antiparlementarisme primaire.
Le parti vert allemand, Die Grünen, fait son entrée au Bundestag, le parlement de l'Allemagne de l'Ouest, avec l'élection de Joschka Fischer. Comme Daniel Cohn-Bendit en France, il est issu du mouvement de la jeunesse antiparlementaire et contestataire.
Une nouvelle génération d'hommes politiques squatte les tribunes. Joschka Fischer, par exemple. Nous avons traversé ensemble les années glorieuses du gauchisme. Élu en 1983, il illustre l'histoire de ma génération qui ne veut pas se retirer de la société, mais a toujours vécu à la limite d'un tel retrait.
Car avant 1989, les mouvements écologistes ne sont pas institutionnalisés et sont portés d'abord par des valeurs libertaires, anti-système et anti-capitalistes. C'est en Allemagne et en Belgique que l'écologie connaîtra une portée politique auprès des électeurs et des électrices dès le début des années 80, notamment autour de la lutte contre le nucléaire et la défense du principe de pacifisme.
C'est quoi la politique parlementaire ?
Dans le temps, nous faisions des tracts. Au Parlement, si tu réussis à prendre une initiative qui marque le coup, ça résonne dans toute la République.
Alors comment est-on passé de l'écologie scientifique et militante à une écologie politique ? Les débuts sont houleux. On est loin de l'image actuelle d'un parti vert européen soudé. Qui connaît les élections européennes ? Souvent synonyme d'abstention record, de campagne électorale bâclée, de désintérêt médiatique, les élections européennes sont aujourd'hui l'unique et la plus grande élection supranationale au suffrage universel direct jamais organisée au monde. 9 épisodes pour 9 élections. Je m'appelle Laetitia Chaban. Et vous écoutez Europe et Sentiments. Élections européennes, une histoire sous les radars. Épisode 3, 1989, l'écologie politique sera européenne ou ne sera pas. Le contexte, troisième élection, 12 pays, nouveaux arrivants l'Espagne et le Portugal suite à la fin du franquisme et de la dictature de Salazar. Taux de participation 58,41%. Dimanche 18 juin 1989. À Bruxelles, au petit matin, les températures sont déjà estivales et la ville s'apprête à voter pour la première fois de son histoire pour des élections régionales. Mais ce ne sont pas de ces élections dont nous allons parler, mais bien des européennes qui se sont déroulées le même jour partout en Belgique. Monica Frazzoni a tout juste 26 ans. C'est une jeune fédéraliste italienne qui a déménagé à Bruxelles il y a à peine un an.
Je suis arrivée à l'Europe parce que j'ai trouvé que la politique nationale était ennuyeuse.
L'écologie politique, elle connaît, mais son combat, c'est le fédéralisme. Et c'est par cette porte qu'elle entre au sein du groupe des Verts au Parlement européen.
Je suis arrivée chez les Verts comme fédéraliste européenne. Donc en 89, il y a les premiers groupes au Parlement européen qui se forment. On avait, les Français et les Italiens avaient très clairement dans la tête que les rôles du Parlement européen étaient fondamentaux pour la démocratie en Europe. Et donc, ils s'étaient intéressés à avoir un fédéraliste qui pouvait les aider à travailler sur ces domaines qui n'étaient pas du tout intéressants pour les restes de Verts, qui avaient plutôt une vision un peu assembléiste, très liée aux campagnes, donc aux questions nucléaristes, etc. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait des Verts au Parlement, mais c'était la première fois qu'il y avait un groupe écologiste. Donc moi, je suis arrivée parce que des écologistes français et italiens sont venus me voir pour me dire qu'on a besoin d'un spécialiste sur ces thèmes. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais nous pensons que ça, c'est vraiment un élément important. Et donc moi, je suis rentrée pas du tout comme vert. Je suis rentrée comme fédéraliste. La chose vraiment importante à comprendre, c'est que les groupes à ce moment-là, c'était vraiment un moment où les Verts commencer à se découvrir les uns les autres. Et donc, pendant toutes ces périodes, moi-même, je les découvrais. Et je les découvrais, je disais, mais ils sont un peu bizarres quand même. Ça, je dois l'avouer. Et donc, la chose qui était intéressante à ce moment-là, on est à 89, c'est que juste autour de cette année-là, commence la décade, les 10 ans de réforme de l'Union européenne. Donc, Maastricht, Amsterdam, Nice et puis Lisbonne. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment la possibilité pendant toutes ces années d'être au cœur, comme pouvait l'être une petite fonctionnaire d'un groupe politique minoritaire, mais quand même, on avait une façon de travailler qui est radicalement différente, beaucoup moins hiérarchique par rapport à maintenant. Et donc, évidemment, j'ai eu une chance inouïe, parce que quand je suis rentrée, ce n'était pas du tout l'idée. J'étais la seule candidate à ma place, pour vous dire. Donc, voilà, donc ça, c'est important. Et donc, je suis devenue verte à fur et à mesure, parce que, en fait, c'est la dimension de l'écologie politique a donné, si vous voulez, un sens à la construction européenne démocratique que je voulais.
Quelques années plus tard, en 1999, elle sera élue eurodéputée sur la liste écolo-belge et puis à nouveau en 2004 sur la liste écologique en Italie. De 2002 à 2009, elle coprésidera le groupe vert au Parlement avec Daniel Cohn-Bendit, puis prendra la coprésidence du parti en 2009.
Autre vainqueur de ces élections, et là la France a suivi le mouvement général, ce sont les Verts.
Mais revenons à ce 18 juin 1989.
Soyez sûr, en tout cas, que les écologistes sont là, bien là, et qu'ils le resteront longtemps.
Pas de triomphalisme, tout juste un sourire pour le vert de la victoire.
C'est une percée historique des partis verts européens, avec 7,9% des voix dans les 12 pays votants. Les élus verts français rejoignent ceux d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, en même temps que les Italiens et les Portugais. Pour la première fois de son histoire, ces 30 nouveaux élus vont permettre aux Verts de former le premier groupe, les Verts, au sein du Parlement européen. C'est la consécration d'une écologie politique née au début des années 70.
Le nouveau Parlement de Strasbourg sera donc plus vert, plus rose et plus noir. Plus vert tout d'abord avec une arrivée importante des Verts français, mais la division règnera au niveau européen. Les Français ne veulent pas d'une alliance avec les Allemands jugés trop marqués à gauche. Plus rose ensuite grâce cette fois aux travaillistes britanniques qui ont réalisé leur première...
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1989, les Verts sont loin, très loin d'être des Européens convaincus. En 1984, les élus écologistes belges et allemands arrivent à obtenir quelques sièges au Parlement européen. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Les Verts belges jugeant les Verts allemands beaucoup trop à l'extrême gauche. Et puis les élections de juin 1989.
Premièrement, chez nous, par exemple, en Italie, c'était toute la bataille autour du nucléaire. et la percée parlementaire, c'est-à-dire que les partis verts rentrent au Parlement italien, et le fait que toute une série des politiques, notamment des conservations de la nature et comme ça, pouvaient devenir mainstream, hein. Et ainsi que la bataille contre la corruption, etc. C'était sûrement la raison en Italie. Pour ce qui est de l'Allemagne, c'est évidemment aussi la bataille antinucléaire, mais aussi très pacifiste. Par contre, chez nous, c'est moins fort toute la question du pacifisme. Ici aussi, en Belgique, c'est toute la question nucléaire. En France aussi. Par exemple, les Allemands considéraient que le Parlement était complètement inutile comme élément de bataille politique.
L'entrée au Parlement européen est perçue à la fois comme une nécessité pour faire passer les idées écologiques à l'échelle législative, c'est-à-dire avoir des lois et un cadre juridique, mais également comme un risque, voire une menace pour le mouvement écologiste. À ses débuts, le Parti vert allemand met en place la rotation des élus pour éviter, je cite, « l'effet corrupteur du pouvoir ». C'est également le cas des élus verts français qui s'engagent à faire tourner leur siège au bout de 2 ans.
Une des dimensions les plus controversées et au groupe au début et au parti était justement le futur de l'Europe. Et les futurs institutionnels de l'Europe. Quand moi je dis que les Verts sont la famille la plus fédéraliste, la plus clairement pro-européenne de l'échiquier politique, au moins au Parlement européen, ce n'est pas une chose qui s'est faite dans un jour. Parce qu'il n'y avait pas il y avait cette idée que l'Europe était un ensemble impérialiste, mercantiliste, capitaliste, et donc les batailles des peuples ne pouvaient pas trouver leur place dans une institution fortement oligarchiste et pas du tout démocratique. Mais il y a eu une évolution qui a porté même des partis, justement, comme les partis suédois qui sont rentrés, ou autrichiens qui sont rentrés avec l'idée de sortir de l'Union européenne, et portés par le vote des gens qui voulaient sortir de l'Union européenne, à devenir des partis, je ne dirais pas complètement fédéralistes, mais sûrement pro-européens.
L'évolution du Parti vert européen est intéressante à plusieurs niveaux. D'abord parce que c'est un mouvement citoyen qui, grâce à son entrée au Parlement, a réussi à placer un sujet, l'écologie, au cœur des institutions européennes, et ça depuis 35 ans.
Donc il y a eu 2 moments qui ont été très importants dans ces moments pour la construction du parti, et la construction, si vous voulez, de l'âme européenne des Verts. C'était premièrement la méthode de travail, c'est-à-dire tout était discuté vraiment comme dans les assemblées des universités des années 70, des années 70. Et au point que c'était extrêmement laborieux, il devait y avoir, pour un homme qui parlait, il devait toujours avoir une femme. Tous les députés élus avaient une co-députée. Et donc la première chose, c'était d'apprendre comme écologistes, donc comme gens qui venaient très souvent des mouvements de citoyens ou qui arrivaient à la dimension du parti, mais après un certain temps. Premièrement, d'apprendre à discuter avec des autres qui avaient une approche très différente. Les Italiens et les Français avaient une approche beaucoup plus institutionnelle que les Allemands et les Nordiques, avec des batailles faramineuses, vraiment des discussions assez animées. Hein. Toi, tu es vert. Toi, tu n'es pas vert. Moi, je suis plus vert que toi. Et toi, donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est la découverte de l'institution Parlement européen, pas seulement comme un endroit à partir de laquelle on peut avoir un financement ou alors avoir un aide, mais un lieu de pouvoir. Et donc, des pouvoirs législatifs notamment. Et donc, ces 2 éléments ont fait en sorte que les groupes qui étaient un peu hétérogènes deviennent une vraie famille politique. Et de l'autre côté, la réalité a été qu'on est devenu fédéraliste.
La deuxième raison, c'est de voir comment un parti anti-système, anti-impérialiste, et donc plutôt eurosceptique au démarrage, est devenu le premier parti pan-européen, c'est-à-dire qui se construit à l'échelle européenne et non à l'échelle nationale.
Maintenant, on est là, Il faut faire en sorte que les institutions changent pour faire en sorte de devenir plus positives pour les genres de bataille que nous devons faire. Donc c'était vraiment une évolution assez passionnante aussi, finalement. Et donc, où les dimensions culturelles, politiques, nationales, linguistiques ont eu sûrement un impact important, mais c'était un vrai travail. C'était vraiment, et peut-être nous, on l'a commencé avant les autres aussi, parce qu'à ce moment-là, on était relativement petits. Quand vous êtes dans un groupe de 200 personnes, c'est différent qu'être dans un groupe de 30, 40, 50 personnes de différentes nationalités.
La troisième raison, c'est que les Verts européens, contrairement aux autres partis élus au Parlement, est un petit parti, encore en construction, avec des codes venus non pas de la politique, mais du milieu associatif et du militantisme.
La peur d'une machine qui ne soit pas contrôlable et qui puisse échappe aux instruments nationaux de contrôle. Donc ça, c'est une chose. Et donc, il y a deux solutions. Ou bien tu décides de refuser, ou bien tu décides de la changer. Et si vous voulez, les grands changements qu'il y a eu chez quelques partis européens étaient, premièrement, une dimension internationaliste qui existait. Tout le monde est antinationaliste chez les écolos. Mais à part ça, c'est de dire on va utiliser cette institution. Mais pour l'utiliser, il faut la changer.
Au Parlement européen, il détonne et innove.
Et au cours des années 2000, même au début des années 2000, quand on est parti en 2004, il y avait vraiment eu tout un travail pour dire la même chose. C'est-à-dire, nous, on est une vraie partie parce qu'on a des modes de décision qui sont supranationales, on a des organes qui sont supranationales. Les textes qu'on fait, je ne dirais pas qu'ils sont la Bible pour tout le monde, mais sont des instruments pour tous et qui sont nés d'une vraie dimension d'élaboration collective. Et les partis s'est lancé avec l'idée il faut qu'on fasse pour les élections européennes des campagnes communes. Et on a été les premiers partis à commencer à faire les campagnes vraiment communes avec un seul texte, des slogans communs, etc.
Le Parti Vert européen a été le premier à organiser des campagnes électorales à échelle européenne. Le premier à mener une primaire à échelle européenne. Le premier à se constituer en parti politique à échelle européenne.
Et donc, il y a eu toute une série d'innovations que nous avons essayé de porter de l'avant, qui n'ont pas été reprises particulièrement par les autres partis, mais qui, pour nous, nous considérons encore comme des innovateurs, si vous voulez, dans ces domaines.
Et souvent le seul aussi. Car c'est sûr, on ne peut pas dire que ça marche à tous les coups. Et mon objectif ici n'est pas de vous faire adhérer au Parti Vert, mais, encore une fois, plutôt d'aller explorer des nouvelles façons de faire à l'échelle européenne, de montrer qu'il est possible de proposer un autre projet européen.
La question qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la Constitution européenne, c'est une construction, et donc c'est quelque chose qui évolue. Et donc la chose qu'il faut vraiment faire comprendre aux gens qui n'ont pas envie d'aller voter, au niveau européen, c'est de dire, là, il y a quand même un pouvoir qui est exercé, que tu votes ou que tu ne votes pas. Dans la plupart des pays, si ce n'était pas pour l'Union européenne, je ne suis pas très sûr où est-ce qu'on serait aujourd'hui avec la législation en matière climatique et environnementale. L'effet que les Danois, parce que c'est ça qu'on disait à nos copains du Nord, non, qui disaient, ah, mais nous, on a des législations beaucoup meilleures. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les pays parfaits au Danemark? Les pays parfaits au Danemark, ça ne sert pas à grand-chose si autour de toi, il y a les feux. Et donc, c'est comme ça au niveau européen et c'est évidemment comme ça au niveau global. On a parlé il n'y a pas longtemps de quelque chose que je considère très important et que les Européens sous-estiment de façon radicale. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Bruxelles. Et l'effet Bruxelles, c'est la capacité de mettre sur pied des standards globaux.
The Brussels Effect, ou effet Bruxelles. C'est un phénomène théorisé par Anu Bradford, professeur de droit finno-américaine à l'Université Columbia aux États-Unis. Dans cette théorie, elle fait référence à la tendance des entreprises et des États dans le monde
à se conformer aux normes et réglementations de l'Union européenne afin de pouvoir opérer sur le marché européen. Prenons l'exemple du Green Deal lancé en 2019, qui vise à rendre l'Union européenne climatiquement neutre en 2050. Les contraintes de ce pacte s'appliquent à tous les partenaires de l'Europe, que ce soit sur le marché intérieur européen, mais aussi pour les Indonésiens et les Brésiliens sur les règles de lutte contre la déforestation. L'Union européenne a donc une influence significative aussi à l'échelle mondiale.
Mais si l'Union européenne renonce à cette capacité de mettre sur pied un agenda des progrès et des changements positifs, évidemment, alors ça va être très difficile pour les gens d'être motivés à la voter. Donc je pense qu'il y a un vrai problème, plus tellement de démocratique, de déficit démocratique, il y a, mais beaucoup moins qu'avant. Mais c'est surtout un problème de faire comprendre aux gens que la participation aux décisions au niveau européen, c'est quelque chose qui est parfois plus facile que la participation au niveau national.
Mais revenons encore une fois à ce 18 juin 1989. Le mur de Berlin n'est pas encore tombé, mais ce n'est plus qu'une question de mois. En Pologne, Solidarnosc a été légalisé et est reconnu pour participer aux élections législatives. C'est la fin de la guerre froide et l'ouverture à l'Europe centrale et de l'Est. J'ai donc envie de croire que le Parti vert est promis à un avenir radieux. Mais quand on regarde la progression des partis verts depuis les élections européennes de 1989 jusqu'à aujourd'hui, il y a finalement peu d'évolution. En 2009, les Verts ont réalisé un joli score, mais finalement assez proche de celui de 1989. On aurait pu pourtant s'attendre à une vague d'adhésion plus importante, notamment avec l'arrivée d'un nouvel électorat venu des pays de l'Est.
Dans les pays des nouvelles démocraties, la question de l'écologie politique, donc disons du changement climatique, de tous les changements qu'on devait faire, etc., était beaucoup moins important que, oui, le chômage, mais surtout la croissance économique. Et donc tous ceux qui étaient au milieu, qui pourraient empêcher ou être perçus comme quelque chose qui limite la croissance économique, étaient absolument vus comme quelque chose de négatif, et pas de négatif, mais des moins prioritaires, ce qui est un petit peu la même chose aussi dans les pays de l'Europe du Sud. Donc vous avez un système politique qui n'est pas très perméable d'une certaine façon. Et quand je parle de système politique, je parle aussi des lois électorales, hein, qui sont évidemment pour que de nouveaux partis émergent, il faut qu'il y ait une série de règles électorales, surtout en ces moments-là. Mais disons que je pense que vraiment des systèmes politiques, système électoral, priorité pas aussi forte. Je pense aussi que je parle pour des pays que je connais les mieux. Il y a aussi un problème de leadership, c'est-à-dire des capacités des écolos d'être vraiment un peu plus en phase avec la société, au-delà des campagnes contre ceci, contre cela, ou en faveur de ceci, ou en faveur de cela. La substantielle ignorance ou indifférence des médias, ça c'est très important, parce qu'effectivement, pour avoir des médias qui sont en mesure de relayer les questions écolo, il faut avoir vraiment un minimum de patience, parce qu'il faut quand même aller un peu au-delà des slogans, et aussi avoir une capacité d'élaboration qui fait comprendre au monde politique qu'en s'occupant de ces dossiers, en s'occupant de ces questions environnementales ou disons aussi climatiques, on gagne des voix. Et ça, c'est quelque chose qui était la réalité pendant quelques temps. Ça fait un peu comme ça dans les différents pays. Mais que dans les pays du Sud n'est jamais, et de l'Est n'est jamais vraiment arrivé. Et donc, il y a aussi une responsabilité, sûrement, d'organisation interne, de la capacité de sélectionner des leaders ou sélectionner des personnalités qui puissent après tirer dans les consensus dans une situation où on n'est sûrement pas particulièrement aidé par la vague populaire.
Pour résumer, en 1989, 30 élus verts entrent au Parlement européen et constituent, pour la première fois, un groupe parlementaire. C'est le début de l'écologie politique à l'échelle des institutions européennes. En entrant au Parlement européen, les verts des différents pays apprennent à travailler ensemble et découvrent que les institutions européennes, si on comprend leur fonctionnement, peuvent devenir un levier puissant pour faire passer les idées écologistes à une nouvelle échelle. Que pour faire bouger les lignes, cela ne se fera pas à l'échelle nationale. À quoi bon être le pays écolo parfait dans un monde pollué et pollueur? Le groupe vert devient le premier parti pan-européen, c'est-à-dire qui se pense à l'échelle européenne et se sert de l'effet Bruxelles pour exercer son influence à l'échelle mondiale. Et pourtant, convaincre les nouvelles démocraties que l'environnement est un enjeu prioritaire reste difficile et la base électorale des Verts demeure majoritairement à l'Ouest. Le soutien des médias est primordial pour faire grandir le mouvement. Si depuis 1989, l'écologie est devenue politique avec un parti ainsi qu'un sujet aujourd'hui partagé dans les médias occidentaux, paradoxalement, on n'a jamais vu autant de gens manifester, revendiquer, pratiquer la désobéissance civile ou des formes de militantisme radical. Alors quelle place donner à la radicalité du mouvement écologiste dans les institutions européennes? Et est-on voué à devenir conformiste une fois entré dans les institutions?
Moi, je pense que vu la situation comme elle est maintenant, on a vraiment besoin de tout. Dans le sens, on a besoin de la radicalité, on a besoin de la présence dans les institutions, on a besoin de conquérir des gouvernements, et on a besoin d'avoir, justement, comme on disait tout à l'heure, des médias capables d'informer sur la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est beaucoup moins important de se demander si la façon de porter les messages est juste que de reporter l'attention sur le message lui-même. Parce que je pense que, à toute évidence, les partis écolos confrontés au gouvernement ont fait de belles réussites, ont sûrement fait des choses importantes, mais quand même, ça reste pas suffisant. Et en plus, ils sont dans une situation qui n'est pas ultra facile. Et les changements, moi, c'est une autre chose que j'ai appris dans mon travail d'écologiste. Si on fait un petit changement, c'est-à-dire si on fait un petit, c'est pour qu'on mette un petit peu enceinte, c'est-à-dire ou bien on se donne les moyens pour faire un vrai changement relativement rapidement, pour faire en sorte que les gens comprennent que c'est ça qu'il faut faire, mais si on fait une zone piétonne, mais qui est de 4 mètres et demi, évidemment, après, ça gêne tout le monde au moment de l'établir et ça ne porte pas des gros avantages. Et donc, je pense que l'échelle des changements doit être importante, parce que sinon, si on change un petit peu, ce n'est pas convaincant, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ça donne du grain à moudre à ceux qui disent bon, « Pourquoi est-ce que je dois jeter des milliards pour faire quelque chose qui, en plus, n'arrive pas à limiter les changements climatiques ?»
En 2022, l'enquête Louis Harris pour l'Institut Montaigne sur l'engagement des jeunes en politique montre que pour la génération des 18-24 ans, près d'un tiers d'entre eux ne se reconnaissent aucune proximité idéologique ou politique à un parti. Et que ce désengagement de la vie politique repose sur deux sentiments, le désintérêt et le rejet. La politique, pour eux, se passe hors des partis ou des syndicats, ce qui n'est pas sans poser de problème à notre système démocratique, qui, lui, est fondé sur la démocratie représentative. La participation à la vie démocratique se manifeste par une participation à des formes politiques alternatives, comme un balancier. On en revient au début de cet épisode et aux années 80, où les Verts sont passés d'un mouvement antiparlementaire et contestataire, qui distribue des tracts, à un parti politique institutionnalisé. Est-on destiné à tout recommencer ? Plus préoccupant, en cette année électorale, à la question de savoir dans quelle mesure il est important pour vous de vivre dans un pays qui est gouverné démocratiquement, c'est-à-dire un pays où les individus choisissent leurs dirigeants lors d'élections libres, 51% seulement des jeunes considèrent cela comme très important.
Comme on dit toujours, on ne gagne pas les élections sur un bilan. On les gagne aussi, justement, comme vous disiez tout à l'heure, sur un sentiment. Et aujourd'hui, le sentiment n'est pas du tout celui qui était en 2019, même si l'urgence est plus importante qu'en 2019. Donc ça, c'est un vrai problème de politique qui doit être quand même aidé par une société civile qui se réveille peut-être plus qu'avant, par des médias qui relaient ce type de messages, parce que si on n'avait pas eu ça en 2019, on ne serait pas arrivé au Green Deal.
On ne gagne pas des élections sur un bilan, mais sur un sentiment. Et là, je me dis qu'on est mal barré, car le sentiment partagé aujourd'hui est plutôt celui de la frustration, voire de la colère, que celui de l'enthousiasme chantant. Et il n'y a qu'à regarder les sondages pour se donner une idée. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Vraiment, la bataille est ouverte, on n'a pas perdu, c'est très important de dire, ce n'est pas déjà gagné de la part des éco-sceptiques et des partis de droite, mais c'est une bataille sur laquelle il faut impliquer les jeunes et faire en sorte de dire ok, tu peux être radical autant que tu veux, mais tu dois quand même avoir des consensus pour pouvoir arriver à des résultats. Et pour arriver à des résultats, il ne faut pas seulement descendre dans la rue, il faut le faire, il faut être présent, il faut être radicaux, mais au moment des élections, il faut aller voter.
Alors, pourquoi irez-vous voter le 9 juin 2024 ? Cet épisode a été écrit, produit et réalisé par Laetitia Chaban. Le montage et mixage est d'Axel Legroux. La musique originale d'Arnaud Paskiewicz. Europe et Sentiments est un podcast indépendant. Cette nouvelle saison a été rendue possible grâce au soutien du Parlement européen et de la Fondation Hippocrène. Pour connaître tous les événements de cette campagne européenne, nous vous invitons à vous rendre sur le site ensemble.eu. Et pour vous tenir informé de la sortie de nos prochains épisodes ou de nos événements, rendez-vous sur le site europeetsentiments.com ou sur sa page Instagram. À la semaine prochaine !